Bienvenue aux Apatrides Anonymes, édition du 21 octobre 2021, en direct des studios de Choc à l'UQAM. C'est Mathieu au micro qui va animer cette émission en compagnie de Marie-Ève.
Oui!
Bonsoir et
bonsoir,
Simon.
Bonsoir Mathieu.
Salut, salut.
Salut. Donc, nous sommes en pleine forme. Notre semaine achève. On a plein d'informations d'actualité. Ça roule pas mal ces temps-ci. On vous rappelle, c'est une émission qui traite des sujets de racisme, frontières, sécurité nationale, immigration, etc., etc. Donc, une heure et dix à peu près de contenu. On va avoir de la musique aussi, entre autres Zouz, on va avoir Julien Filion Quartet, on va avoir Mokhtar Gagnat et Guanasoul. Donc, et dans les sujets, ben Marie-Ève va nous parler entre autres de la Pologne et de la Biélorussie. Elle va aussi nous parler de la Libye. Et Simon va nous parler pour une deuxième fois en deux émissions de l'Afrique.
Burundi, Rwanda, Nigeria surtout.
Parfait. Moi, je vais parler un peu de la Sierra Leone aussi. Je vais parler du conflit actuel diplomatique et idéologique et politique entre la France et l'Algérie. D'autres autochtones qui ont tombé aux mains de la GRC. Il y a beaucoup d'enquêtes du coroner ces temps-ci. Je vais parler un petit peu aussi de Défendre de police et de la campagne municipale à Montréal. Et dans quelques instants, ben, je vous parle des réfugiés afghans. Donc, juste vous dire qu'on a une page Facebook, qu'on a un site Internet, qu'on a un courriel et qu'on est rejoignable en tout temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, même quand on n'est pas en onde. Donc, quelques notes de musique et on y va avec un premier micro. Donc, je vous parle en premier lieu des réfugiés afghans. C'est un des fameux sujets de conversation depuis la chute de Kaboul il y a presque deux mois. Donc, les chiffres au niveau des Afghans acceptés au Canada sont vraiment difficiles à trouver. C'est un peu nébuleux, c'est un peu difficile. Au début octobre, on disait que le Canada avait réussi à évacuer 75% de ses 1250 citoyens et résidents permanents canadiens, d'une part, et 15% des Afghans vulnérables restés à Kaboul. On disait que parmi les 4300 Afghans sélectionnés par Ottawa dans le cadre du programme spécial des 20 000, un groupe de 650 personnes avait réussi à sortir du pays, qui restait donc plus de 3650. Une semaine plus tard, le Canada s'est engagé, c'est-à-dire Trudeau en campagne électorale, à passer de 20 000 à 40 000 Afghans acceptés, admissibles au statut de réfugiés. Et on dit qu'en date du 27 septembre, 13 400 Afghans avaient fait une demande de refuge au Canada, 9 400 avaient été acceptés. 2500 étaient ici et donc 5500 étaient en Afghanistan et 1250 dans d'autres pays. Fait que les chiffres, ça c'était une semaine plus tard, on en dit moins. Fait que faut vraiment essayer de trouver. Puis des fois, la même nouvelle dans deux médias différents la même journée, c'est pas les mêmes chiffres.
Donc, en tout cas, selon ce que tu dis, on semble être quand même loin des 40 000. Là.
Oui, on parlerait de 13 400 qui ont fait une demande, 9 400 acceptés, puis à peu près 5 000 qui seraient ici. Donc, il y en a qui sont en transit, évidemment. Ouais. Là, puis là, on augmente à 40 000. Fait que là, imagine la bureaucratie, en tout cas. Du côté de l'Europe, en date du 7 octobre, 22 000 Afghans avaient été évacués et accueillis dans 24 États européens. Le HCR souhaite que les pays de l'UE accueillent 42 500 réfugiés afghans en 5 ans, ce qui est très peu. Il y en a déjà 22 400 en 2 mois. Qui sont arrivés. Plusieurs États membres de l'Union européenne n'hésitent plus à remettre en cause le droit d'asile face à la crainte que des milliers de réfugiés afghans, la fameuse vague, affluent en Europe. Divisés et désireux d'éviter la crise de 2015, les 27 veulent soutenir financièrement les pays voisins de l'Afghanistan pour accueillir les réfugiés. On connaît la rhétorique. Fin août, l'anxiété s'est muée en hostilité manifeste quand Janez Janša, premier ministre de la Slovénie, qui est le pays qui occupe la présidence tournante du Conseil de l'Europe, a affirmé que ce n'était pas le devoir de l'UE de payer tous les gens de la planète qui fuient au lieu de lutter pour leur pays. Là, j'ai fait de payer pour tous les... J'étais pas de payer... de payer tous les gens et non pas de payer pour tous les gens.
Ouais, non.
Fait que c'est un peu particulier comme raisonnement. Donc, on les payerait, dans le fond, en les amenant en Europe. Donc, les ministres de l'Intérieur de l'UE ont insisté sur la prévention de la migration illégale quand on parlait seulement de potentiels réfugiés. Donc, pour l'instant, l'afflux tant attendu, tant redouté de réfugiés afghans en Europe n'a pas eu lieu. De toute façon, on sait que la forteresse Europe est assez bien fermée et qu'ils vont... Ils vont sélectionner les gens qui veulent avoir. Donc voilà, c'était un peu ma mise à jour pour les réfugiés afghans ici et en Europe. Donc, Marie-Ève, on reste en Europe avec
oui.
toi.
Ben oui, ben c'est parce qu'en fait, il y a eu pas mal de développements là, dans le dossier de l'afflux de migrants à la frontière entre la Biélorussie et la Pologne depuis qu'on vous en a parlé la dernière fois à la fin septembre. Mm-hmm. Selon les chiffres des gardes frontières polonais, il y aurait eu plus de 15 000 tentatives de franchissement de la frontière qui ont été effectuées depuis le début août. Bon, là, en réponse à cet afflux, on le sait, la Pologne n'a pas cessé de renforcer la militarisation de sa frontière avec la Biélorussie, surtout depuis l'ajout d'un cinquième mort, tous d'origine irakienne. Là. Donc, il y a près de... Là, on est rendu à près de 6 000 militaires qui sont... ça, c'est les chiffres à jour. Là, je suis allée chercher les actualités là, des derniers jours. Donc, on est rendu à près de 6 000 militaires qui sont actuellement présents le long de la frontière, qui est longue de 400 kilomètres. C'est pas si long que ça. Fait que ça en fait du militaire.
Au kilomètre carré.
Oui, oui. Rappelons que les autorités aussi ont construit une clôture de barbelés sur une longue section de cette frontière-là. Là, ils projettent aussi de construire un vrai mur avec des détecteurs de mouvement et tout. Et le 2 septembre, le Parlement polonais a instauré l'état d'urgence local qui interdit aux journalistes, aux ONG de se rendre dans la zone frontalière. Cet état d'urgence-là devait être en vigueur pour 30 jours. Mais là, le Parlement a prolongé début octobre l'état d'urgence pour une période de 60 jours supplémentaires. Bon, évidemment, les migrants dénoncent aussi les agissements des forces, dénonçaient déjà quand même les agissements des forces de l'ordre polonaises qu'ils accusent de refoulements illégaux en les empêchant là, de franchir la frontière et de déposer une demande d'asile en Pologne, ce qui est contraire, faut le préciser, au droit international et européen.
Ben oui.
Mais il y a quelques jours, là, cette pratique a tout bonnement été légalisée par l'adoption par les députés de la Chambre basse d'un amendement. Rappelons que cette pratique-là, comme j'ai dit, est interdite par l'article 33 de la Convention de Genève et par la Constitution de polonaise elle-même. Donc là, il y a un amendement qui a été adopté pour modifier la Constitution et qui légalise les refoulements, en
fait. OK, c'est là que tu t'en allais, là.
C'est okay, ça.
Ouais.
Selon une agence de presse polonaise aussi, depuis le début octobre, les gardes frontières polonais envoient même des SMS dissuasifs à toute personne migrante en Biélorussie et qui se trouve à portée du réseau de téléphonie mobile polonais.
Okay.
Le message, en gros, c'est « La frontière polonaise est fermée. Les autorités biélorusses vous ont raconté des mensonges. Retourner à Minsk. »
C'est en anglais, j'imagine, hein?
En plusieurs langues, je pense, justement. Je pense que c'est anglais, arabe, russe, parce qu'il y a aussi, dans ces messages-là, ça contient un lien vers un site Internet du ministère polonais de l'Intérieur où la situation à la frontière est expliquée dans ces trois langues-là.
C'est beau, la technologie, quand même, je trouve.
Ou mettre son argent, hein, quand même.
C'est ça. Mais il y a une rumeur aussi qui circule, une rumeur un peu spéciale concernant des pilules que les soldats biélorusses distribueraient aux migrants. Il y a Stanislas Zarin, qui est le porte-parole du ministre coordinateur des services spéciaux polonais, qui a affirmé avoir été informé par les autorités lituaniennes que les forces de l'ordre biélorusse distribuaient des pilules étranges qui seraient en fait apparemment de la méthadone aux migrants pour les aider à survivre, entre guillemets, lors du passage de la frontière vers l'Union européenne. Le ministre polonais de l'Intérieur, Mariusz Kamiński, a cité un incident qui se serait produit le 22 juillet, où les gardes frontières lituaniens ont arrêté un groupe de 15 Irakiens russes et russes d'origine tchétchène, pardon. Le groupe comprenait deux enfants âgés de 6 ans et un de 1 an et demi. Et selon le ministre, lors des interpellations, les parents ont expliqué aux policiers lituaniens être incapables de réveiller leurs enfants, auxquels les forces de l'ordre biélorusses auraient donné deux pilules pour qu'ils pleurent pas lors du passage à la frontière.
Ah, OK.
Donc, d'après le ministre, les deux enfants ont été hospitalisés à temps et ont pu être sauvés. Mais en tout cas, j'ai essayé de trouver des informations pour corroborer cette histoire-là, mais j'en ai pas trouvé. Bon, évidemment, la Pologne n'est pas le seul pays là, à avoir fait le choix de la militarisation plutôt que de l'accueil. Il y a la Lituanie et la Lettonie aussi. Et, bon, comme ils sont dans l'impossibilité de rester en Pologne ou de retourner en Biélorussie, les exilés semblent désormais se tourner de plus en plus vers l'Allemagne, où la police fédérale a enregistré plus de 2600 entrées clandestines à la frontière germano-polonaise depuis le début de l'année. Sinon, vous dire le principal... Oui?
Ben, je suis encore un petit peu sous le choc de l'histoire des pilules, là, parce que ce qu'on veut comprendre, c'est que les Biélorusses veulent faire traverser les migrants vers la Pologne sans que les gardes-côtes, les gardes-frontières polonaises s'en rendent compte, c'est ça?
Ben oui, parce que depuis le début, justement, je vais y venir, là, mais comme on avait parlé avant, c'est que l'Union européenne accuse la Biélorussie d'organiser carrément le passage et l'afflux des migrants vers l'Union européenne.
OK.
Donc...
Mais tu sais, la méthadone, ça peut être pour ne pas avoir faim, pour ne pas avoir froid, tu sais, ça peut être pour des raisons comme ça. Là,
OK, autres, parfait, ouais. C'est bon.
Je vais l'expliquer un peu plus, mais on vous en avait aussi parlé, mais tout ça pour dire que, pour revenir à l'Allemagne, le principal point de passage est dans la région autour de la ville de Francfort, Francfort sur l'Oder, et non pas à Main, qui fait face à la ville polonaise de Słubice, qui sont séparées par le fleuve Oder. La police de la ville se prépare à voir cette hausse des arrivées se poursuivre et a installé des tentes, des toilettes sur un de ces terrains. Il y a des conteneurs qui vont servir d'hébergement temporaire pendant l'hiver aussi qui vont être mis en place. Puis donc, justement, Simon, comme je vous disais, l'Union européenne accuse la Biélorussie d'organiser l'afflux de migrants à ses frontières pour, dans le but ouvert de déstabiliser les 27 pays membres. Et l'Union européenne qualifie cet acte-là d'agression, littéralement. La Commission européenne a donc menacé de suspendre un accord qui était entré en vigueur en juillet 2020, accord qui assouplissait les conditions d'octroi de visa de court séjour pour les personnes liées au régime biélorusse. La suspension partielle, de cet accord-là toucherait pas les citoyens ordinaires, mais seulement les représentants des délégations officielles, les membres des gouvernements et parlements nationaux et régionaux, ainsi que des cours suprêmes qui sont dans l'exercice de leurs fonctions. Puis cette mesure-là s'ajouterait aux interdictions de séjour dans l'Union européenne qui visent 166 individus, dont le président Loukachenko,
évidemment
qui a, interdiction de séjour qui avait été décidée en réponse à la répression de l'opposition dans le pays. Et donc, en représailles à ces menaces-là de l'Union européenne, ben le Parlement biélorusse, lui, il a dit, il a pas attendu que l'Union européenne prenne sa décision. Il a lui-même décidé de suspendre l'accord de réadmission établi entre Minsk et Bruxelles en 2020, en adoptant une loi qui autorise le pays à refuser les migrants en provenance de l'Union européenne.
OK.
Fait que la situation se complexifie et risque de devenir rapidement explosive.
Ben, ça répond à mes questions, mais ça reste quand même assez compliqué, tout ça.
Ben, c'est un des points chauds actuellement de la planète au niveau des migrants. Puis là, c'est vraiment un jeu de qui s'égaroche, de qui les utilise, comme on a vu entre la Turquie et la Grèce, entre autres, là, à quelques reprises. Mais ça dure depuis quelques mois. Là. Ça commence à être moins drôle, là.
Oui, puis là, j'ai vu dernièrement qu'il commence à avoir vraiment des manifestations qui s'organisent des deux côtés de la frontière, là, Pologne-Biélorussie, pour justement... manifester contre les pushbacks là puis les refoulements illégaux là qui ont été rendus légaux par
plus ou moins on va dire légitimes là c'est ça ouais.
J'ai l'impression qu'il y a un peu de propagande peut-être de part et d'autre aussi. On accuse l'autre de faire ci.
Non,
mais ça devient difficile de faire le tri dans tout ça. Je trouve tellement c'est gros certains.
Oui, non, c'est sûr que les déclarations officielles, faut s'en méfier un peu, mais on reprend des articles quand même qui essaient d'avoir un peu le fond des choses. Mais t'as raison qu'il y a d'autres choses à creuser là-dessus.
Ouais.
Merci Marie-Ève
pour ça me fait plaisir.
Cette première partie de tes micros. On vient la musique avec ça va nous introduire avec le prochain sujet, les prochains. Contenu que Simon va nous amener. Donc, c'est de la musique en provenance d'Afrique. J'en parlerai plus en détail après la toune. Écoutez-la bien, elle est très bonne. C'est Mokhtar Gania et Gna Wassoul avec la pièce Ala As Soudané. Toujours aux Apatrides Anonymes, c'était l'artiste Mokhtar Gania avec son groupe Nawasul, la pièce Soudan. Donc, c'est un EP sorti à l'automne 2020 en Europe et en Afrique. Et récemment ici, en copie domestique par Nuit d'Afrique, c'est-à-dire dans les dernières semaines pour le Canada. Monsieur Mokhtar Gania est un digne héritier de la dynastie Gania du Maroc. Il est un Mahalem, c'est-à-dire un maître héritier du savoir et grand joueur de Gwembri.
Respect.
Qui est le principal instrument de musique Gnawa, qui est un style de musique dans le Maghreb et en Afrique aussi de l'Ouest. Donc, toujours très entraînant, très intéressant. Donc, tout ça pour dire qu'on va parler d'Afrique, entre autres, avec Simon dans 2 minutes. Je fais juste vous dire une petite nouvelle qui est passée inaperçue, évidemment, mais qui est quand même sympathique.
Comme souvent en Afrique. Hein,
oui, à part les grandes, grandes catastrophes. Donc, la peine de mort est officiellement abolie depuis le 8 octobre en Sierra Leone. D'autres pays africains ont récemment aboli la peine de mort, comme le Malawi en avril et le Tchad l'année dernière en 2020. Plus de 30 pays d'Afrique maintiennent encore la peine de mort, mais un peu moins de la moitié de ces pays ont procédé à des exécutions durant les dernières années dans les faits. Dans le monde, une cinquantaine d'États continuent d'appliquer la peine capitale et selon Amnesty, au moins 483 personnes ont été exécutées en 2020, mais on constate année après année une baisse mondiale des exécutions. Donc, c'est le chiffre le plus faible en 2020 jamais enregistré depuis une dizaine d'années. Mais ça n'inclut pas les milliers d'exécutions qui ont probablement eu lieu en Chine, en Corée du Nord et au Vietnam, où ces données sont classées secret d'État. Si vous voulez savoir dans les gens exécutés officiellement qu'on sait, les 4 pays qui en ont fait le plus, c'est l'Iran, l'Égypte, l'Irak et l'Arabie saoudite. minutes. Donc voilà, Simon, je te laisse, te cède le micro pour ton bloc, ton premier bloc Afrique.
Afrique subsaharienne, comme il y a deux semaines, en fait, j'avais parlé de la Guinée, du Mali, Côte d'Ivoire, RDC, Ouganda, Rwanda. Donc je parle encore de Ouganda, Rwanda cette semaine-ci et Nigeria, beaucoup, un deuxième bloc plus tard, il y a plein de nouvelles, et je vais commencer avec le Burundi, dont j'avais à peine eu le temps d'évoquer les inondations catastrophiques des derniers mois du printemps de l'été. Ça a provoqué le déplacement d'au moins 100 000 personnes, des déplacés internes surtout en raison de la hausse de 4 mètres du niveau du lac Tanganyika, qui est un immense lac qui touche aussi la Tanzanie, la Zambie et la République du Congo. Mais ces trois pays-là, donc Tanzanie, Zambie, RDC, sont moins affectés que le Burundi parce que proches du lac Tanganyika, dans ces trois pays-là, c'est surtout des parcs, des réserves naturelles, tandis qu'au Burundi, c'est très développé. Sur les rives du lac, il y a plein de villes, plein de routes, plein d'infrastructures. Le Burundi était déjà très affecté par les déplacements de masse en raison du contexte politique difficile qui perdure depuis des années. En tout, 400 000 déplacés internes et externes dans les dernières années. Donc, les récentes inondations viennent rajouter une couche dans le malheur de la population burundaise. On est en train de déplacer des déplacés là, actuellement. Donc, puis éventuellement, si une autre crise se rajoute à ça ou si le climat politique continue de s'enflammer, ce sera des perpétuels déplacés, là, si on veut. Save the Children s'inquiète pour les enfants, évidemment. L'organisme a sorti le chiffre suivant. 7% des 100 000 déplacés dus aux inondations sont des bébés de moins de 1 an. Ça donne 7200 bébés déplacés tout juste dernièrement. Il n'y a pratiquement aucune couverture médiatique de cette catastrophe-là, donc comme on disait tantôt. Autre nouvelle burundaise, accord de coopération signé entre le Burundi et l'Arabie saoudite sur la mobilité de la main-d'œuvre. On parle surtout d'emploi comme personnel domestique et c'est un programme qui vise plus particulièrement les jeunes femmes, on s'en doute. Toujours inquiétant ce genre d'accord qui mène souvent à différentes formes d'esclavage. L'accord parle de protection légale pour les jeunes femmes qui iront travailler à Riyad ou ailleurs, mais on le voit même dans des états de droit plus sérieux comme le Canada, mettons, on n'arrive pas à bien encadrer ce genre de programme-là où toutes sortes d'abus sont commis.
Ils n'auront pas le droit au même régime de droit que les Saoudiens, hein?
Non, c'est sûr. C'est des régimes spéciaux, mais même au Canada, l'aide philippine, par exemple, qui est soumise à toutes sortes d'abus, elle n'a pas un statut comme toi et moi, par exemple.
Ah non, je sais. Mais non, tout à fait.
Et elle est éjectable, renvoyable, je ne sais pas comment dire ça.
Expulsable.
La situation étant ce qu'elle est au Burundi, on peut soupçonner que les jeunes burundaises vont être nombreuses à vouloir à tout prix profiter de ce que fait miroiter le rêve saoudien. Je ne sais pas comment on le vend là-bas. Il y a plein de monde qui cherche à fuir le Burundi à n'importe quelle condition, ce qui rend ça encore plus facile, plus apte à toute forme d'exploitation, au recrutement. Dernière petite nouvelle burundaise, la Belgique, qui est encore une fois mise en cause dans un assassinat d'un leader indépendantiste dans les années 60.
OK, oui, tout à fait, oui.
Je dis encore une fois parce que ça s'était vu au Congo avec l'assassinat de Patrice Lumumba, le premier ministre de la République du Congo à l'époque. Mais là, on semble confirmer, grâce à la découverte récente d'archives britanniques, je sais pas c'est quoi lié, mais que le décès de Louis Rwagasore ait aussi été commandité par Bruxelles à l'époque.
À l'époque, oui.
Oui, il y avait des soupçons, mais là, on s'en va vers une confirmation. Il y a un essai qui est sorti par un historien sociologue récemment. Les archives ont été rendues publiques.
Okay.
Louis Rwagasore venait d'être élu premier ministre du Burundi en septembre 61, quand il a été tué.
Okay.
L'indépendance n'était pas encore faite, mais son principal mandat était justement de conduire le Burundi vers l'indépendance.
Qui était une colonie belge, le Burundi.
Ça a été une province du Congo belge à l'époque.
Okay.
Mais il y a eu scission à un certain moment donné, parce que le Congo, je crois, avait déjà son... C'est un peu complexe comme période, là, c'est sûr, mais ce n'était pas un pays...
une colonie belge.
C'était pas une entité indépendante dans un système colonial.
OK, c'est bon.
Province congolaise. On passe au pays voisin, le Rwanda. On vous parlait lors de la dernière émission du décès récent du colonel Théoneste Bagosora, grand architecte du génocide rwandais.
Mm-hmm.
Ben, un autre personnage important de cette période-là fait lui aussi les manchettes ces temps-ci, Paul Russet-Sabagina, très connu, surtout grâce au cinéma. C'est le propriétaire dans le film Hôtel Rwanda.
Ouais.
Il était dans la vraie vie aussi, il était propriétaire de l'hôtel des Mille Collines à Kigali. C'est un héros national. En fait, c'est un Hutu qui est réputé avoir sauvé la vie d'environ 1000 personnes, surtout des Tutsis.
Mm-hmm.
Il vient d'être condamné à 25 ans de prison pour terrorisme dans le cadre d'un procès qualifié de très, très politique.
Mm-hmm.
Arrestation comparée à un kidnapping à Dubaï, à la suite de laquelle M. Roussé Sabagina a été porté disparu pendant des jours, ce qui n'est pas tout à fait normal. D'ailleurs, les détails de son arrestation sont toujours inconnus. Human Rights Watch talonne le gouvernement rwandais pour obtenir les détails, mais on les a pas pour l'instant. Procès par la suite tout croche, ça avait été très long avant qu'on lui donne accès à un avocat, avocat qu'on lui a finalement imposé. Impossibilité de communiquer avec sa famille en Belgique pendant des jours, conditions de détention inconnues, témoignages contradictoires, plein de vices de procédure. Il faut savoir que M. Roussé Sabagina, M. Roussé Sabagina est très, très critique à l'endroit de l'actuel président Paul Kagame et qu'il a contribué à la fondation d'une coalition de groupes qui s'oppose au régime actuel. Voilà, mécanisme de surveillance, voyons. Excusez, je pense que je suis mélangé dans mes feuilles. Mais voilà pour les nouvelles Burundi-Rwanda. Je vais vous revenir avec un bloc Nigeria dans, un peu plus tard dans l'émission.
Ben écoute, Simon, c'est dans 30 secondes, donc je vais partir quelques notes de musique. On va partir quelques notes de musique et puis on te repasse la parole, puis sinon je prendrai le relais.
Parfait.
Donc, on continue avec Simon et son bloc, ses actualités africaines.
Ben oui, comme vous avez remarqué, j'avais intercalé deux feuilles.
Ben oui.
Un peu. J'avais une dernière petite nouvelle en lien avec le Rwanda encore et l'Ouganda.
Vas-y.
Le lien entre les deux, c'est que ce sont les deux seuls pays africains à accueillir des réfugiés afghans suite à la prise de Kaboul par les talibans.
Ça fait un lien ce que je parlais tantôt, oui. Oui,
ouais, ben là, je pense que les Afghans vont être beaucoup dans l'actualité migratoire dans les prochaines semaines, forcément. Donc, ça peut paraître inusité, surtout dans le cas du Rwanda, qui a 25 ans, était à feu et à sang. Il y a quand même du chemin qui a été parcouru si aujourd'hui on est rendu une terre d'accueil. Faut souligner que le Rwanda et l'Ouganda sont déjà cernés de toutes parts par des afflux de réfugiés de la région, par exemple du Burundi, dans le cas du Rwanda. Et l'Ouganda, on l'a mentionné quelques fois, mais c'est le pays africain où il y a le plus de réfugiés, 1,5 million.
C'est vrai, ouais.
Mais ça n'a pas empêché les deux pays de répondre à l'appel de la communauté internationale d'accueillir des réfugiés afghans. Donc, l'objectif en Ouganda est de 2000 et 250 pour le Rwanda. Pour le Rwanda, ça va être révisé parce que c'est 250 membres du personnel et étudiantes d'une école pour filles plus leur famille. Donc, ça va probablement aller autour de 500, entre 500 et 1000. Certains sont déjà arrivés. C'est sûr que c'est pas des contingents énormes, mais c'est plus que certains pays européens dont Marie-Ève parlait tantôt. Je crois qu'il y a déjà des Afghans qui se bousculent à la frontière européenne, même si c'est juste depuis le mois d'août que...
Par la Biélorussie, oui.
C'est ça.
Ouais.
En Ouganda, il y avait eu un scandale il y a quelques années parce qu'il y a eu de l'argent des bailleurs de fonds qui financent l'arrivée des réfugiés qui avait été détourné au profit de membres du gouvernement en collusion avec des agents du HCR et du PAM, du Programme alimentaire mondial. Donc, il y avait eu enquête à l'époque et depuis ce temps-là, il y a des mécanismes de surveillance qui sont un peu plus stricts. On se croise les doigts pour que l'argent serve véritablement au Rwanda et en Ouganda pour les réfugiés afghans. Nigeria, je vais essayer de vous en dire le plus possible. C'est un pays gigantesque. Il se passe tout le temps plein de choses. Pays de loin le plus peuplé d'Afrique avec 220 millions d'habitants. Ça brasse pas mal avec les groupes djihadistes, surtout dans le nord, mais pas seulement des groupes djihadistes. Il y a un autre groupe criminel qui fait beaucoup parler de lui, qui est sans orientation religieuse particulière, qui terrorise les populations. C'est dans le nord-ouest et au centre du Nigeria depuis une dizaine d'années. On les appelle les bandits, les bandits. Ils font du pillage principalement de la contrebande, mais leur spécialité, c'est les enlèvements de masse contre rançon. Il y a 200 de leurs otages qui ont été libérés récemment par l'armée nigériane. Ça incluait femmes et enfants, et ils pouvaient être entreposés par les bandits des semaines ou des mois dans des hangars. Il y a 300 membres de ce groupe criminel-là, les Bandits, qui ont été arrêtés, mais les activités du groupe sembleraient se poursuivre à un rythme assez soutenu. Donc ça, c'est dans le nord-ouest et au centre du Nigeria. Si on va faire le nord-est, où deux autres groupes plus connus, ceux-là se livrent une guerre sans pitié, donc Daesh, chapitre Afrique de l'Ouest, ou ISWAP, et Boko Haram, qui se battent les deux pour le contrôle de la contrebande sur le lac Tchad, qui est une région vraiment très stratégique. C'est à cheval sur le Tchad, justement, le Nigeria, le Cameroun et le Niger. Mm-hmm. Il y a certaines îles qui sont considérées comme très stratégiques par les deux groupes, sur lesquelles il y a des combats qui ont généré des centaines de morts. Depuis l'insurrection de Boko Haram en 2009, il y a eu 36 000 morts et 2 millions de déplacés dans le nord-est du Nigeria. En 2016, le groupe s'est scindé avec d'un côté la faction historique Boko Haram, qui porte toujours le même nom, et de l'autre la création de ISWAP, qui est devenue plus ou moins la branche de Daesh dans la région.
Okay.
Depuis ce temps-là, ben, ils s'affrontent avec des creux et des pics de violence, comme on le voit depuis septembre. Pour l'instant, c'est Boko Haram qui semble reprendre le contrôle du lac Tchad, mais ISWAP va essayer de se venger, et le groupe bénéficie du soutien logistique et financier de Daesh. Donc, c'est une guerre qui va probablement se poursuivre sur plusieurs années et qui n'a pas fini de se faire déplacer les populations dans le Sahel. On quitte les régions éloignées du nord du Nigeria, on s'en va en ville, à Lagos, sur la côte, complètement au sud. On vous parle de plus en plus souvent de réfugiés climatiques. On vous a parlé, entre autres, des villes, des mégapoles qui sont menacées. Beaucoup des villes en Asie, un peu partout, en fait, mais beaucoup en Asie, effectivement. Mais il y a Lagos, qui est souvent oublié dans les listes, dans les différents articles de villes très vulnérables à la montée des eaux. Je sais pas pourquoi, c'est le syndrome africain d'oublier l'Afrique, de l'invisibiliser. On le voit avec le Burundi, là, qui vit catastrophe sur catastrophe, puis on n'entend jamais parler dans les grands médias. Mm-hmm. Marie-Ève, il y a deux semaines, tu résumais des articles que tu avais lus sur plusieurs grandes villes menacées par les eaux dans le monde, et ça m'a mentionné à peine Lagos. J'ai fait mes recherches, dans la plupart des cas, effectivement...
T'as fait tes recherches.
Ben oui, non, mais je parle pas de vaccination, là. Lagos, c'est vrai que c'est pas nommé dans la plupart des articles, même des rapports de grandes organisations internationales, mais quand on cherche spécifiquement sur Lagos, on en trouve. Puis pas n'importe quoi comme info, là, les projections prédisent que la ville pourrait être complètement submergée à partir de 2050. Mm-hmm. C'est demain, ça. Et Lagos, c'est une agglomération de 22 millions d'habitants. C'est maintenant la plus grande d'Afrique. Elle a récemment dépassé le Caire et Kinshasa. Je vais garder ce sujet-là pour une autre fois.
Parfait, c'est bon.
Parce que j'ai plein de choses à dire sur Lagos, qui
tu commenceras avec ça la
prochaine
fois.
Passionné d'urbanisme et de post-apocalypse. Là,
d'environnement.
Donc, voilà, c'est ça.
Ben ok, Simon, donc tu vas nous poursuivre ça à la prochaine émission ou à la suivante sur Lagos et le Nigeria.
Je vais poursuivre sur Lagos particulièrement. C'est un cas vraiment intéressant. Là, c'est un cas d'école de ville qui est amené peut-être à disparaître. Là,
parfait. Vois? Donc, merci Simon. On te retrouve pour un peu d'agenda tantôt. Donc, je vous rappelle qu'il est 19h04, vous écoutez les Apatrides Anonymes. Je vais poursuivre avec quelques... On reste un peu en Afrique en partie, c'est-à-dire vers le nord, le Maghreb, l'Algérie, conflit actuellement diplomatique, politique, historique, idéologique, médiatique avec la France. Donc, ce qu'on peut dire, c'est la démarche... attendez-moi un instant. La démarche contradictoire du président Macron sur la lourde histoire coloniale française. Il fait plein de moves par rapport à l'Algérie, mais d'autres pays aussi. Des fois, c'est des mains tendues. Des fois, c'est des coups de poignard dans le dos. Il est vraiment difficile à suivre. Et récemment, donc au début du mois d'octobre, Alger a rappelé pour consultation son ambassadeur à Paris, un geste qui s'inscrit dans un contexte de tension accrue avec la France actuellement. Les médias algériens reprenaient largement un article du journal Le Monde où le président français estime qu'après son indépendance en 1962, l'Algérie s'est construite sur une rente mémorielle entretenue par le système politico-militaire. Macron, qui s'exprimait en recevant des descendants de protagonistes de la guerre d'Algérie, évoque aussi une histoire officielle, selon lui, totalement réécrite, qui ne s'appuie pas sur des vérités, mais sur un discours qui repose sur une haine de la France. Donc, il a déclaré ça au début octobre dans une rencontre officielle avec les médias. Juste avant, Paris avait annoncé une forte diminution du nombre de visas accordés aux ressortissants du Maroc, de l'Algérie et de la Tunisie, invoquant un refus de ces pays du Maghreb de délivrer les laissez-passer consulaires nécessaires au retour des immigrés refoulés de France. Donc, quelle surprise! Sinon, un autre passage des déclarations de Macron a provoqué l'ire en Algérie. Il s'est posé la question, est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française?
Oh my God!
Non, ça, tu dis pas ça.
Ça, c'est la question, s'est interrogé le président français. Donc, vous voyez le genre de discours qu'il peut tenir actuellement. je cite un média algérien qui s'appelle 24 heures, média francophone. Macron entend faire une campagne électorale, celle qui s'en vient, sur le dos des Algériens et des Maghrébins. Beaucoup voient dans les propos d'Emmanuel Macron une réminiscence des sujets chers aux polémistes d'extrême droite. Éric Zemmour, lequel déclarait, lui, en 2014, l'Algérie n'existe pas, c'est une invention de la France. Donc, on voit les liens. Il y a eu un rapport, le rapport Stora, remis en janvier sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie, qui avait été rejeté par l'Algérie pour son absence de reconnaissance officielle par la France des crimes de guerre et contre l'humanité perpétrés pendant les 130 années de l'occupation de l'Algérie. Donc, à travers ce contexte-là, l'Algérie a interdit au début octobre son espace aérien aux avions militaires de l'opération Barkhane dans le Sahel et menace de revoir ses relations économiques et commerciales avec la France. Mais là, vous voyez, ça, c'est une première partie. Ensuite, il y a une semaine, le président français a dénoncé des crimes inexcusables pour la République à l'occasion d'une cérémonie officielle pour les 60 ans de la répression meurtrière de manifestants algériens le 17 octobre 1961 à Paris, qu'on a appelé la Nuit Noire. Ces déclarations s'inscrivent dans une démarche entreprise par M. Macron pour apaiser les mémoires sur la guerre d'Algérie et tenter de réconcilier les deux pays. Il l'a dit lui-même, c'est les communiqués officiels de l'Élysée. Cette nuit-là, en 61, une répression s'est abattue sur les manifestants qui protestaient contre le couvre-feu imposé aux Algériens de sortir de chez eux pendant la guerre d'Algérie, mais c'était à Paris puis en France. Près de 12 000 Algériens furent arrêtés et transférés et emprisonnés. Outre de nombreux blessés, plusieurs dizaines furent tués, leurs corps jetés dans la Seine, pour ceux et celles qui connaissent l'histoire. Ça a été reconnu pour la première fois par Macron, donc, la semaine passée. Le bilan officiel actuellement ne parlait que de 3 victimes dans le bilan actuel français. Donc, ben c'est ça. Donc, excusez-moi, là, j'ai aussi, comme Simon, je me perds dans mes feuilles. Ça s'en vient.
Veux-tu que je chante une chanson?
Non, c'est bon. J'y arrive. Donc, l'évocation du seul préfet Maurice Papon comme responsable d'une tragédie longtemps tue, dénié ou occulté a déçu plusieurs responsables d'associations parce que c'est ce qui a été reconnu par Macron la semaine passée dans le cadre de cette date-là. Je cite quelqu'un d'une association. C'est insupportable de continuer dans ce déni que l'on ne puisse pas nommer la police parisienne, que l'on ne puisse pas citer Michel Debré, premier ministre à l'époque, ou le général de Gaulle, c'est inacceptable. Alors que la gauche réclamait la reconnaissance d'un crime d'État, on parle toujours de 61, là, la répression contre les Algériens, Marine Le Pen a critiqué ses repentances à répétition insoutenables et la propagande victimaire anti-française. Ce geste marque une nouvelle étape dans la bataille mémorielle menée par Emmanuel Macron, ont souligné plusieurs observateurs. À l'Élysée, on assure que le chef de l'État souhaite avant tout regarder l'histoire en face, comme il l'a fait au Rwanda, récemment reconnaissant les responsabilités de la France dans le génocide des Tutsis en 94. Je fais un lien avec Simon. Donc, c'est un peu cette dynamique-là actuellement. Il est dans la repentance, il est dans l'accusation, il refait un peu l'histoire, fait qu'il est à la fois critiqué à la gauche et à la droite, et tout ça dans un contexte préélectoral où il essaie de se rallier différentes personnes. En même temps, il se fait des nouveaux ennemis. C'est un peu dur à suivre ce qui se passe en France.
Il est capable de se positionner clairement parce qu'il veut séduire l'électorat de droite et d'extrême droite, j'imagine aussi.
Et garder le centre et le centre-gauche. Donc, c'est un peu ça. Fait que là, on joue à gauche, on joue à droite.
On parle des deux bords de la bouche.
Ben voilà, merci pour la conclusion, Simon. Exactement. Donc, on va y aller. Marie-Ève, qui est à la mise en onde, qui me fait des grands signes donc de procéder. Donc, on va y aller en musique avec Zoo. C'est un groupe montréalais, j'en parle après la chanson. C'est la pièce Course à rebours, c'est dans le palmarès de Choc.
Yeah.
Le trio montréalais Zouz, la pièce Course à rebours, tirée de leur album, premier album complet, Vertige, sorti cette semaine. C'est, on donne dans la post-punk noisy franco. C'est un, quand même un trio qui existe depuis 2016. Ils ont eu quelques EP et singles. Et ils sont en concert. Le prochain concert que j'ai vu, c'était à Alma avec Bloodshot Bill le 12 novembre. Et je vous rappelle que c'est dans le palmarès franco de choc.ca. Donc, Marie-Ève, on revient avec toi. On reste dans la Grande Afrique, finalement. On va y aller avec un autre pays où il se passe beaucoup de choses, la Libye.
Oui, effectivement, parce qu'il n'y a pas qu'aux frontières de la Biélorussie où la situation est explosive. En Libye, faut le dire, ça chie. Mm-hmm. La police libyenne a mené à Tripoli une vague d'arrestations inédites de migrants depuis le 1er octobre au nom soi-disant d'une lutte contre le trafic de stupéfiants, d'alcool et d'armes à feu. Ces rafles-là ont mené à l'arrestation quand même de plus de 5000 personnes. Je vous rappelle que c'est depuis le 1er octobre. Là. Donc, des personnes qui ont été sorties de leur... expulsées de leur logement, des trucs comme ça. Selon Dax Rock, qui est directeur du Norwegian Refugee Council en Libye, c'est parmi les plus importantes arrestations de migrants à avoir lieu ces dernières années dans le pays. Et parmi les personnes arrêtées, il y aurait des réfugiés déjà enregistrés, des femmes, dont certaines enceintes, et des enfants. Il y a des images qui ont circulé sur les réseaux sociaux montrant des douzaines de personnes, là, mains liées, qui sont amenées par les autorités. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés explique que ces événements-là ont causé évidemment un sentiment de peur et d'alerte là, parmi les demandeurs d'asile. Et donc, plusieurs se sont mis à être de plus en plus nombreux à se regrouper, dans le fond, devant le centre de jour du HCR à Tripoli pour obtenir de l'aide et des informations. Le HCR, ben lui... Question, pour empirer la situation, a décidé le 4 octobre de suspendre les activités de fermer son centre de jour jusqu'à nouvel ordre pour, selon leur dire, préserver la sécurité de son personnel et des migrants. Bon, évidemment, pour les exilés, la fermeture du centre a des conséquences dramatiques, puisque c'est le seul endroit où ils peuvent aller. Donc, depuis, ben là, ils sont plus de 2000 personnes, majoritairement originaires d'Érythrée, du Soudan et de Somalie, à dormir littéralement devant le centre pour réclamer leur évacuation du pays. Sur les images qui circulent sur les réseaux sociaux, on voit vraiment des centaines de migrants, là, dont de nombreux enfants qui sont assis au sol au bord de la route dans un dénuement vraiment total. Certains brandissent des pancartes demandant au HCA de l'aide. On compte aussi beaucoup de blessés, dont certains ont été victimes d'armes à feu, puis des migrants affirment avoir été violentés à leur domicile, dans les rafles dont je vous ai parlé. Ouais. En plus, il y a un demandeur d'asile soudanais qui a été tué par balle le 12 octobre après la visite d'une délégation du ministère libyen de l'Intérieur dans les bureaux du HCR où se déroulait une rencontre entre le HCR et des représentants des différentes communautés présentes devant le centre. C'est une rencontre à laquelle la délégation du ministère n'avait d'ailleurs pas été invitée. Ils se sont comme imposés là. Le HCR, lui, assure que l'incident n'a pas eu lieu devant le centre de jour. Il demande l'ouverture d'une enquête.
La personne tuée, là, pour la personne tuée?
Oui.
Ouais.
Mais il y a des demandeurs d'asile qui étaient là, qui disent que le jeune homme s'est fait tirer dessus à environ 500 mètres du centre.
OK.
De son côté, ben là, l'HCR dit qu'il travaille à maintenir le contact avec les groupes de personnes qui demeurent en dehors du centre là, pour recueillir leurs données, répondre à l'urgence ou aux cas vulnérables, puis fournir des rendez-vous aux cas non urgents. Il affirme aussi que toutes ces lignes téléphoniques sont ouvertes puis que des soins médicaux d'urgence peuvent être apportés là, via des transferts vers des hôpitaux en ambulance. Sauf que là, rappelez-vous des rafles, beaucoup de personnes craignent de dévoiler leur localisation parce qu'elles ont peur d'être ciblées par d'autres arrestations. Mm-hmm. Bref, ce qui se déroule devant le centre du HCA, c'est une sorte de crise humanitaire dans une crise humanitaire.
Ouais, ouais.
Puis ben, pendant ce temps-là, les centres de détention libyens sont de plus en plus surpeuplés. Il y a l'International Rescue Committee qui dénombre 5000 nouvelles personnes placées dans ces centres-là depuis le début des arrestations massives le 1er octobre. Selon l'IRC, Al-Mabani, qui est le centre de détention le plus important, compte actuellement plus de 4000 personnes. C'est 4 fois sa capacité officielle. D'ailleurs, le 8 octobre, il y a une évasion massive qui a eu lieu dans le centre et qui s'est soldée par un bain de sang. Il y a au moins 6 personnes qui ont été tuées, 24 blessés. Mais le bilan pourrait être évidemment beaucoup plus lourd selon les exilés qui manifestent devant le centre de jour du HCA, il y a au moins 34 personnes qui auraient été tuées au cours de l'évasion et 300 personnes blessées. Faut rappeler que les vols d'évacuation aussi sont bloqués depuis le mois d'août par les autorités libyennes. Mm-hmm. Et donc, dans tout ce contexte-là, ben là, le HCA rappelle les autorités locales à libérer les demandeurs d'asile et à mettre fin aux arrestations.
Ben oui.
Sauf que lui-même, il a fermé son centre de jour.
Ouais,
fait qu'ils vont aller où, ce monde-là? Je me le demande. Bref, peut-être en terminant, préciser que aussi tout ça se déroule alors que il y a un groupe d'experts de l'ONU qui vient de remettre un rapport d'enquête qui dénonce notamment la situation où, justement dramatique des migrants en Libye qui sont soumis à toutes sortes de violences aux mains des trafiquants ou dans les centres de détention. Je cite le rapport: les détentions arbitraires dans des prisons secrètes et dans des conditions insupportables sont largement utilisées par l'État libyen et par les milices contre toute personne perçue comme représentant une menace à leur intérêt. La violence dans ces lieux de détention est tellement massive et avec un tel niveau d'organisation qu'elle peut être considérée comme un crime contre l'humanité. Donc,
c'est à l'image du reste du pays, hein?
C'est ça. Et donc, cette commission-là a enquêté en Libye pendant les 5 dernières années, plus précisément entre avril 2019 et juin 2020, ce qui correspond à la bataille de Tripoli, lorsque les troupes du gouvernement d'Union nationale du président El-Sarraj puis l'armée nationale libyenne du maréchal Haftar s'affrontaient pour le contrôle de la capitale. Le rapport parle aussi de crimes de guerre, notamment le recrutement d'enfants soldats et d'exécutions arbitraires de civils, comme ceux retrouvés dans des fosses communes dans la ville de Tarouna, au sud-est de Tripoli. Et bon, donc, à l'exception de ce massacre-là, les experts ne citent pas les auteurs présumés des crimes. Ils insistent sur les difficultés pour les faire comparaître devant la justice, mais ils disent qu'une liste confidentielle pourra être mise à toute instance là, qui sera en mesure de demander des comptes aux responsables de ces atrocités-là. On mentionne aussi que les raids aériens qui ont tué des dizaines... On mentionne aussi les raids aériens qui ont tué des dizaines de familles, la destruction des infrastructures de santé qui empêchent l'accès aux soins, les mines antipersonnelles laissées par des mercenaires dans les quartiers résidentiels qui ont tué et blessé de nombreux civils. Et ben le rapport recommande une des seules recommandations du rapport, c'est auprès du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, c'est de prolonger encore le mandat de cette mission-là pour qu'ils puissent rester sur le terrain.
Ouais, ben merci pour ces informations-là qu'on ne voit pas aux nouvelles ça brasse pas mal. C'était la Libye, hein, pour ceux et celles qui ont rattrapé en cours de chronique là.
C'est intense comme situation. Intense. C'est vraiment ça se dégrade.
Je vois pas la fin de tout ça.
Non, moi non plus.
On continue de suivre ça. Merci Marie-Ève. On passe à quelques notes de musique. Toujours aux Apatrides Anonymes. On revient au pays pour les dernières quelques minutes qui nous restent à l'émission. Donc, la GRC et les meurtres d'Autochtones, c'est pas qu'on veut enfoncer le clou absolument, mais il y a quand même des développements, il y a des enquêtes qui se passent. Le médecin légiste en chef du Manitoba lance une enquête du coroner sur la mort d'une femme dans une cellule de la GRC à Thompson, dans le nord du Manitoba. On vous a déjà parlé de Thompson et de la situation entre la GRC et les Autochtones. Céline Samuel, une femme de 44 ans de la Première Nation North Franklin Denisolin a été mise en détention le 1er février 2020. La GRC avait été appelée pour venir en aide à une femme en état d'ébriété. Après avoir reçu le feu vert des ambulanciers, la police a amené Mme Samuel au détachement de la GRC et l'a placée en cellule, dans une cellule sans, en béton, sans matelas, ni oreiller ou couverture. Elle a été retrouvée morte quelques temps plus tard. Voilà, il y a une enquête là-dessus. En novembre 2020, la province a annoncé qu'elle ouvrirait un nouveau centre de dégrisement à Thompson où la police et des organismes communautaires pourront déposer une personne en état d'ébriété pour une nuit au lieu de l'envoyer au poste de police. C'est déjà une première étape. Donc, enquête du coroner là-dessus. Dans le Nunavut, un jury conclut que la mort de Charles Kinnirk est un homicide, pas un suicide. Et la nuance est importante. L'homme de 21 ans a été tué le 19 décembre 2016, donc au Nunavut. Les avocats du bureau du coroner et de la famille ont soutenu que sa mort était un homicide, tandis que l'avocat de la GRC affirmait qu'il s'agissait d'un suicide. Et c'est là souvent l'enjeu qui se passe dans ces situations-là. Lors de l'enquête, le caporal Ian Crow a dit que M. Kinkin, avant de lever son fusil vers les policiers, a crié qu'il voulait mourir. La police d'Ottawa a fait une enquête sur l'événement et a innocenté le caporal Crow, affirmant que l'usage de la force par le policier était raisonnable. Sauf que finalement, l'enquête a révélé qu'après la fusillade, lorsque les officiers ont atteint M. Kinkin, celui-ci a demandé « Pourquoi avez-vous tiré? » Il a dit ça avant de mourir. Donc, c'est pas la réaction de quelqu'un qui voulait être abattu, ont souligné les avocats. Donc, c'est un peu ça l'enjeu, c'est que souvent la GRC essaie de faire passer ça pour un suicide par policier interposé. Les gens, tu sais, sont armés, sont intoxiqués, insultent les policiers, leur foncent dessus, et ils veulent se suicider comme ça. Puis c'est dans ces cas-là, c'est important de dire que c'est pas ça la réalité. Et en plus, la GRC a informé que le caporal Crow effectue maintenant des tâches administratives. Il a été accusé de voies de fait plus tôt cette année pour avoir répondu à un appel de service dans une autre ville au Nunavut en août dernier. Et en terminant pour ce petit bloc, j'en avais parlé brièvement la semaine passée. Ronnie Levy, au Nouveau-Brunswick, un jury d'une enquête du coroner a déclaré que c'était aussi un homicide parce que la GRC prétendait que c'était aussi un suicide par policier interposé. Donc, c'est le verdict rendu par le jury de l'enquête du coroner. Je vous rappelle que Ronnie Levy, 48 ans, membre de la Première Nation de Métépé-Nagyak, a été abattu par l'agent Scott Haight de la GRC en juin 2020 près de Sunny Corner au Nouveau-Brunswick. Le jury devait déterminer si ce drame était un homicide, un suicide ou aucun des deux. Je ne sais pas, ça aurait pu être quoi, aucun des deux, mais enfin... Parmi les recommandations, je vous en nomme trois, je finis là-dessus, que la GRC ne soit pas la première répondante lorsqu'il s'agit d'une vérification du mieux-être d'une personne autochtone et qu'elle attende l'arrivée de l'agent autochtone de liaison de la communauté ou de l'équipe de gestion de crise, que des centres de soins pour en santé mentale et en toxicomanie soient établis dans chaque communauté autochtone, on a déjà entendu ça, hein? Et qu'une formation sur la sensibilisation aux questions autochtones et qu'une hausse sur l'intervention lors d'une tentative de suicide soit obligatoire pour les cadets de la GRC. Et finalement, ben juste dans ce cas-là de Ronnie Levy, qui a été beaucoup médiatisé, on avait parlé ici, la couronne avait décidé de ne pas porter d'accusation criminelle contre les deux agents après avoir révisé les conclusions de l'enquête du BEI du Québec, là, parce que c'est le BEI qui intervient au Nouveau-Brunswick. Là, ils viennent de se doter d'un propre bureau d'enquête. Mais tout ça pour vous dire, c'est des petits sujets, des petites nouvelles qui ont, ça non plus, pas fait les manchettes, mais c'est important de savoir qu'il y a des choses qui évoluent, puis qu'il y a aussi un pattern qui est toujours aussi présent. Donc
cette histoire de suicide interposé, c'est de la grosse bullshit, c'est effrayant.
Ah, je sais. Puis ça, j'ai deux cas, là, Ronnie Levy, puis l'autre monsieur au Nunavut. Là,
ben, mais, on demanderait à n'importe quel psychologue va vous dire ça ne se peut pas.
Non, vous pourrez voir ça. Oui, Simon, écoute, je comprends très bien. On en discutera un autre moment. Donc, on va passer à l'agenda. Je te cède la parole en premier.
Ben, un petit guide gratuit en ligne publié par la CIMAD, le groupe militant français qu'on connaît bien. C'est le septième titre de sa collection Petit Guide. Ça s'appelle « Refuser la fabrique des sans-papiers ». C'est français, mais c'est bien d'avoir ces petits guides illustrés, faciles à lire, super bien faits, parce que la bureaucratie française a ses particularités. Il y a la première section, d'ailleurs, du guide s'appelle « Nul n'est censé comprendre la loi ». Mais malgré la spécificité française, on peut faire plein de parallèles avec nos systèmes ici au Québec et au Canada, qui sont aussi des fabriques à clandestinité. Le guide met très bien l'emphase sur tout l'aspect kafkaïen, les bizarreries, contradictions qui, comme le titre le dit, mènent à la création d'un bassin de population sans papier captive, qui devient une main-d'œuvre la plus cheap, la plus facile à contrôler, à exploiter sans limite, et qui joue un rôle économique important quand même. Donc, la CIMAD explore avec nous les mécanismes, leur évolution, parce que ça change tout le temps. Donc, les mécanismes qui mènent à un demandeur d'asile à la clandestinité et comment l'État est soit indifférent, soit complice de ce phénomène-là. C'est bon de lire ça parce que dans l'opinion publique, souvent, on voit les personnes sans papier comme des criminels. Alors que finalement, c'est des personnes qui ont été menées vers cette situation-là.
Ouais.
Petite citation du petit guide de la CIMAD de refuser la fabrique des sans-papiers. Alors que les personnes en situation irrégulière sont exclues du marché légal de l'emploi, elles doivent parfois prouver avoir travaillé légalement pour être régularisées. C'est sur lacimad.org.
Hey, merci beaucoup, Simon.
Ça fait plaisir, hein?
Je poursuis avec deux, trois petites nouvelles avant de continuer. Donc, le Migrant Workers Alliance for Change fait un appel à la population sur les réseaux sociaux pour écrire aux autorités fédérales de l'immigration et aux autorités politiques. Il faut savoir que le programme spécial pour les anges gardiens qui ont travaillé dans le réseau de la santé, il y a 15 000 places de disponibles. Il y aurait 15 000 places de disponibles qui ne sont pas remplies. Et c'est jusqu'au 6 novembre que c'est ouvert dans certaines provinces. Et ils ne sont pas remplis parce que beaucoup de gens ne peuvent pas appliquer à cause de leur statut, à cause d'enjeux de langue, d'enjeux de statut de travail. Donc, il y a une pression pour que le programme soit élargi, vu qu'il resterait 15 000 places disponibles dans l'ensemble du Canada. Donc, si vous voulez partager cette lettre-là aux autorités, c'est Migrant Workers Alliance for Change, donc sur les réseaux sociaux. Sinon, au niveau du calendrier plus précisément, lancement le 26 octobre midi en ligne du nouveau site web Droit de manifester. Donc, un lancement en visioconférence avec présentation. C'est la Ligue des droits avec le MEPAC et le service aux collectivités de l'UQAM qui ont organisé ce site-là. Il vise à faire connaître les entraves aux droits de manifester causées par les règlements municipaux à travers le Québec. Ça, c'est le contenu du site. Il vise à outiller et à autonomiser les groupes et les personnes dans leur mobilisation politique et juridique afin de protéger et exercer pleinement ce droit. Donc, 26 octobre, midi, en ligne. RBC is killing me, action créative en solidarité avec la nation Wet'suwet'en. Dans le cadre de la Journée internationale d'action contre les banques, une action se déroulera devant les bureaux de la Banque royale du Canada. On rappelle que la Banque royale du Canada est le cinquième plus gros financier de l'industrie fossile au monde, mesdames et messieurs. Ces projets comprennent des abus majeurs, entre autres avec le pipeline Coastal GasLink sur le territoire des Wet'suwet'en. Donc, action, c'est le 29 octobre, 16h30, devant les bureaux de la Banque royale à la place Ville-Marie. C'est organisé, entre autres, par Extinction Rebellion Québec, Climate Justice Montréal, la Cévèze et compagnie. Donc, voilà pour des petites activités, si ça vous tente d'aller manifester ou de faire des actions de solidarité en ligne. Donc, c'est tranquillement la fin de cette magnifique émission des Apatrides Anonymes. Avant de terminer, je vous disais qu'on restait un peu localement. Donc, Defund the Police, la Coalition pour le définancement de la police, qui est très active depuis un an et demi à peu près, a créé des vignettes sur Facebook, entre autres, sur l'élection municipale de Montréal qui a lieu le 7 novembre. Et ils font un petit peu, ils sortent quelques éléments des différents partis en lien avec le financement des financements de la police et leur position par rapport au SPVM. Projet Montréal, donc, a annoncé 110 millions de dollars supplémentaires en sécurité publique sur 4 ans, dont 96 millions pour la police. Ça, c'est dans ses promesses ou en tout cas ce qui a été annoncé récemment.
Oui, mais il faut que tu enlèves l'inflation, là.
Oui, oui, oui. L'inflation du matériel militaire.
Voilà.
Ensemble Montréal croit que la police doit être « better fund, pas defund ». Donc, « better fund, pas defund ». Ça, c'est le parti de monsieur de Coderre. Il prétend qu'il manque au moins 250 policiers et veut ajouter le directeur de la police au comité exécutif de la ville, toi, Jose.
Hey, hein? Bravo, et... c'est le fun. Après ça, on ose dire que la police, non, c'est pas le bras armé de l'État.
Un non-élu au comité exécutif, pourquoi pas. Et Mouvement Montréal, qui a la plateforme la plus intéressante, promesse de réaffecter les fonds du SPVM en logement social, retirer le SPVM des écoles primaires et secondaires, interdire les contrôles de rue, interdire l'utilisation de logiciels de reconnaissance faciale. Donc ça, c'est quelques petites positions de certains partis politiques.
Mais là, il y avait eu fusion avec un quatrième parti, là, je ne sais pas si ça
Ralliement Montréal, mais c'est Mouvement Montréal qui a pris le contrôle de cette fusion.
OK.
Donc le programme a été imposé. C'est le parti sur certains points qui est plus progressiste, mais on vous laisse juger de tout ça. Donc, voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Simon.
Merci à toi, Mathieu. Merci, Marie-Ève. Émission un peu funeste, il me semble plus que d'habitude, mais...
Ben, ouais, je sais bien, on a fini avec l'agenda, puis les élections municipales. Fait que, tu sais, c'est ça. Pas funeste, mais disons que c'est lourd. Par bout, c'est sûr que les sujets sont assez intenses. Donc, ben, on vous remercie d'avoir été à l'écoute. La prochaine émission sera le 4 novembre. Le 4 novembre au soir à 18h30. Donc, en direct des studios de Choc.
On parlait de parler des deux bords de la bouche.
C'est ça, on fait des liens souvent pour les plus vieux à l'écoute. Donc, à patrizanonyme.info. Sinon, sur Facebook, on a un courriel aussi à patrizanonyme@resist.ca. Et puis, ben, on va finir avec une dernière pièce d'un artiste local, s'appelle Julien Filion. C'est la pièce Loop Hole. C'est un quatuor actif seulement depuis un an et demi. L'album est à venir, il n'y a toujours pas d'album. Quelques pièces qui circulent sur le net. Julien Filion, Al Bourgeois, Philippe Brochu, Pelletier et Noam Guerrier-Freud sont le quatuor. C'est deux saxes, deux batteries, fait que ça bûche pas mal. C'est la Révélation Jazz 2021-2022 de Radio-Canada. Donc, Julien Filion Quartet, la pièce Loophole, en vous souhaitant une très belle soirée.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Bye.